Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous discutions la dernière fois et nous allons continuer aujourd'hui sur les mystères de la vie publique de Jésus. Nous avons parlé du baptême, nous avions commencé à parler des tentations de Jésus. Tu disais notamment que dans la tentation, il y a l'idée de la suggestion et que la suggestion n'est pas neutre, elle peut être suggestion au mal et que nous devons avoir cette responsabilité de voir le poids de la suggestion. Là, peut-être faut-il aller plus loin sur les tentations, leur contenu. Je suis assez frappé par cette phrase, là, au numéro 540. « La tentation de Jésus manifeste la manière qu'a le Fils de Dieu d'être Messie, à l'opposé de celle que lui propose Satan et les hommes, et que les hommes désirent lui attribuer. » Il y a dans le contenu des tentations la manière qu'a le Fils de Dieu d'être Messie. Peut-être faut-il regarder de plus près ces tentations, ce qu'elles disent sur l'expérience humaine, nos tentations humaines, au fond.
Oui, alors il y a l'ordre de Matthieu et l'ordre de Luc et sont un peu différents, mais elles se recoupent et on voit tout d'abord que la première, pour les deux évangélistes, c'est la tentation de transformer des pierres en pain. Jésus est là depuis 40 jours et 40 nuits dans le désert sans avoir mangé, il a faim, et le diable lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains. » Et de fait, il voit la puissance de Jésus, et très certainement, il y a l'intuition dans le démon de voir que c'est le Fils de Dieu. Et il lui propose quelque chose, dans le fond, un miracle pour la facilité personnelle, un miracle pour la croissance de l'avoir. L'avoir, c'est toujours une tentation des hommes, de faire grandir leur patrimoine, de faire grandir leur salaire, de faire grandir l'argent qu'ils ont, les collections sur lesquelles ils se passionnent, etc., les collections de livres, d'objets, de voyages qu'ils font, etc. L'avoir peut être une tentation permanente de la vie. Et pour épater après la galerie, hein, c'est vrai que avoir transformé des pierres en pain, c'est quand même assez prodigieux, ça. Ça ressort un peu de la magie, presque. Et Jésus répond d'une manière drastique, avec la parole de Dieu lui-même, « Ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Une parole du Deutéronome qu'on... Jésus donc répond avec ce qu'il est finalement, parce qu'il est la parole de Dieu éternel. Il montre bien que Dieu n'intervient par des miracles que dans des situations, je dirais, extrêmes et en vue de donner la foi. Or, Jésus sait très bien que le démon ne sera jamais capable de revenir sur le premier geste où il s'est séparé de Dieu et revenir dans une attitude de foi. Il a un savoir seulement, un savoir que Jésus est le Fils de Dieu, mais un savoir qui n'est pas marqué par la grâce et la charité. Donc il y a une incapacité totale de pouvoir adhérer à une parole de Dieu. Mais cela suffit pour exclure dans cette tentation la force démoniaque, et Jésus nous montre bien l'exemple. Il faut prendre la parole de Dieu et la ruminer pour être capable de dire non quand il faut dire non, oui quand il faut dire oui à des bonnes choses, non au mal. Et Jésus le dira d'ailleurs dans ses recommandations apostoliques, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Voyez, il faut savoir dire non. Parfois, on s'inquiète de voir des chrétiens qui ne savent plus dire non. Et ça, c'est quand même très embêtant. Ça veut dire qu'on rentre un peu dans le politiquement correct, souvent. Pour garder son bien, je vais faire des choix humains qui va être seulement de conserver mon petit patrimoine et que m'importe le reste. C'est une affreuse capitulation, je dirais, devant l'esprit du mal.
Oui.
La deuxième tentation, on peut prendre l'ordre de saint Matthieu, c'est que le diable conduit Jésus sur le pinacle du temple dans la ville sainte. Qu'est-ce que c'est que le temple? Ben, c'est le lieu même de l'édification de tout le savoir, là où sont gardés les tables de la loi, là où sont gardés, dans le fond, les préceptes. C'est là où il y a le Sanhédrin qui juge et qui approfondit de cas en cas les conséquences de ces préceptes sur l'ensemble du peuple de Dieu. Donc c'est le lieu du savoir, d'une certaine manière, par excellence. Et on comprend très bien que l'homme puisse être tenté par le savoir dans un sens très autocentré, comme le propose le diable. Il donnera pour toi des ordres à ses anges. Là, il cite l'Écriture, et sur leurs mains, ils te porteront, de peur que tu ne heurtes du pied quelque pierre. Il utilise un psaume dans un sens d'auto-référentiel, comme dirait le pape François. Et telle n'est pas la résonance de l'Évangile dans le cœur d'un chrétien, car Jésus lui répond d'ailleurs, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est parfois Dieu lui-même qui nous demande des signes à réaliser, comme le prophète Isaïe, vous vous souvenez, pour le roi Akaz, demande un signe, et puis Akaz dit non, je ne tenterai pas le Seigneur mon Dieu. Vous voyez, on peut là aussi inverser les paroles. Il faut toujours revenir à la finalité, à quelle est la volonté de Dieu dans le moment où cela advient. C'est cela qui aide à garder une bonne mesure dans l'interprétation de la parole de Dieu. Sinon, on peut la prendre toujours, la tirer d'un côté ou de l'autre, oui, comme Akaz le faisait. « Oh non, tu ne tenteras pas ton Seigneur ton Dieu. » Mais non, mais Isaïe demandait un signe au nom de Dieu. Donc c'était bien sa volonté qu'un signe soit donné. Or là, il n'y a pas de signe particulier à ce que Jésus le fasse devant le diable qui est inconvertible. Il ne peut pas se repentir de son mal. Et il y a des moments où le mal, il faut savoir lui dire non d'une manière définitive, sans tenter par des moyens politiques, toujours des consensus à l'amiable. Il faut savoir dire non. Si on ne dit pas non aujourd'hui, les prochains ne diront pas non demain. Et c'est une spirale du mal qui gangrène un pays. Troisième tentation, après l'avoir et le savoir, c'est le pouvoir, car le diable l'emmène sur une haute montagne où il voit tous les royaumes de la terre et il lui propose « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes, si te prosternant, tu me rends hommage. » Il demande une adoration luciférienne. Et nous savons que malheureusement, cela existe, qu'il y a des messes noires, qu'il y a des édifications de groupes dont le sommet est aux mains de Lucifer, et donc il faut rester toujours sur ses gardes devant ces courants qui veulent influencer la société et qui en fait veulent conduire à une sorte d'hommage à la culture de la mort, qui est la culture luciférienne. Et Jésus a cette réponse très forte qui est celle qui sera utilisée par tous les exorcistes de l'histoire de l'Église. Arrière Satan, retire-toi Satan. C'est une parole strictement de Jésus qu'on ne trouve même pas dans l'Ancien Testament, qui est toute neuve, qui sort directement de la parole de Dieu comme une nouveauté qui dépasse tout ce qui a déjà été dit. Mais Jésus ne manque pas non plus de citer cette parole ancienne. C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte, reprenant donc l'Exode dans la promulgation de la loi, et ou le Deutéronome, qui est la deuxième proclamation de la loi, où ces paroles sont ainsi inscrites comme faisant partie de notre députation que nous donne notre dignité de fils de Dieu, dignité israélite, dignité aussi du baptême, où nous sommes députés à rendre un culte à Dieu. Tu lui rendras un culte et tu adoreras seulement le Seigneur ton Dieu. Donc le démon est défait sur les trois domaines, l'avoir, le savoir et le pouvoir. C'est très beau de savoir que, dans le fond, Jésus les récapitule, ces tentations, d'une manière qui sera constante dans notre histoire. Car nous-mêmes, nous savons que l'avoir, le savoir et le pouvoir peuvent être des tentations auprès dans lesquelles nous allons nous passionner tellement que nous allons oublier la volonté de Dieu.
Oui, elles reviennent chaque année. Enfin, en tout cas, cette tentation de Jésus au désert vient chaque année. Alors, dans la répartition des lectures,
avec le carême, oui. C'est ça. Oui.
Au début du carême, oui. Et c'est comme un marqueur, ce début du carême. On se dit, ah tiens, encore les tentations de Jésus, mais ça rejoint un peu ce que tu dis, c'est que ce sont des tentations qui sont en fait permanentes, qui notre vie doit lutter et doit revenir dans le combat de ces tentations. Elles marquent le combat, mais elles marquent aussi un combat qui est déjà gagné en Jésus-Christ.
Oui, qui est gagné et qui va lui permettre, d'ailleurs, Luc 4, 13, dit « jusqu'à l'heure favorable ». Et le diable s'éloigne après ces trois tentations où Jésus l'a repoussé jusqu'à l'heure favorable. Et l'heure favorable, évidemment, c'est la passion. C'est-à-dire le fait d'avoir su repousser les tentations de l'avoir, du savoir et du pouvoir, eh bien, immédiatise Jésus dans sa fonction rédempteur et qui va donner sa vie pour le salut du monde. Et nous voyons, nous chrétiens, nous devons nous situer parce que nous avons nous aussi à donner notre vie pour nos frères.
Mmh. Oui, nous n'avons pas à... il ne nous faut pas agiter en permanence le diable, mais il faut reconnaître sa présence et se dire, oui, il s'éloigne, le diable s'éloigne.
S'éloigne.
C'est le Christ en sa passion et le ressuscité qui va s'avancer, et lui en revanche, et qui reste le plus présent à notre vie, celui qui fait notre vie.
Qui fait notre vie, la lumière du monde. Merci.
Merci, frère Edouard.